Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 8h44, la revue de presse avec Benjamin Glaise.
Oui, Benjamin, on commence par le nouveau visage des Césars qui s'affiche à la une de Sud-Ouest, par exemple, ce matin.
Oui, une 46e cérémonie, donc présentée ce soir par Marina Foïs dans un Olympia presque sans public, après les polémiques de l'édition 2020 avec Adèle Haenel et la fermeture depuis des salles. Les Césars tenteront de se réinventer. D'ailleurs, l'événement fait aussi la une aujourd'hui du Parisien, avec ce titre « Cinéma français, l'année noire ». Cette cérémonie qui aura forcément un goût amer pour un secteur à l'arrêt qui ne voit pas pour l'instant de motif d'espoir chez les exploitants. Les pertes se chiffrent à près d'un milliard d'euros, tandis que des centaines de projets de films sont à l'arrêt.
Oui, on va en parler dans un instant avec Karl Meus du Figaro Magazine, parce que Marina Foïs est en une du Madame Figaro, et Jean Dujardin aussi qui est de retour. On va en parler dans un instant, une du Figaro Magazine. Alors du côté de la montagne, c'est le Festival de Cannes qui fait la une.
Oui, alors c'est pas forcément le Festival de Cannes auquel vous pouvez penser, puisque là, c'est le festival de canne à pêche, en l'occurrence. Ah. Bah oui, avec l'ouverture demain de la pêche pour les saumons et les truites. Toutes les conditions sont réunies pour les 21 000 passionnés de salmonidés du Puy-de-Dôme, nous dit à la montagne. Après un hiver normal et un bon débit des cours d'eau, la conjoncture est plutôt favorable pour aller pêcher. Une activité en plus compatible avec les règles sanitaires. Même sujet d'ailleurs en une de la Nouvelle République des Pyrénées. Ça frétille, titre le quotidien de bon augure donc pour demain.
Bon, bah très bien. Une inquiétude tout de même à la une du Figaro, avec la baisse de la natalité qui est constatée en France.
Oui, le nombre de naissances diminue depuis plusieurs mois, et ce de façon assez spectaculaire. En cause le Covid, la crise économique ou encore le recul de la politique familiale. Au total, 53 000 bébés sont nés en janvier dernier, soit une baisse de 13% par rapport à janvier 2020. Un démenti cinglant donc à ceux qui espéraient un baby-boom lié à la promiscuité du premier confinement. Moins de naissances, mais de plus en plus de jumeaux. Cette étude assez surprenante à la une de la Dépêche du Midi ce matin. Figurez-vous que dans le monde, un bébé sur 40 est jumeau. Un constat notamment dû aux procréations médicalement assistées, nous dit-on.
Oui, merci beaucoup. Allez, on enchaîne maintenant. On a un petit peu de retard avec Karl Meus qui est avec nous du Figaro Magazine. Bonjour Karl Meus.
Bonjour.
Donc je le disais, hein, dans le Figaro ce matin et notamment le magazine, il y a Marina Foïs que vous pouvez avoir dans le Figaro Madame et Jean Dujardin, OSS 117 qui est de retour, hein, c'est ça?
Exactement, on a profité de la sortie prévue dans un mois normalement du troisième volet de la saga OSS 117 pour mettre Jean Dujardin en une, parce qu'on trouvait que, bon, à la fois il y a les Césars, vous l'avez évoqué, mais c'est surtout qu'il incarne l'homme moderne qui nous ressemble. Vous savez, votre chroniqueur l'évoquait, c'est l'homme qui donne de l'amour, le père, le mari, le gendre un peu idéal. Et surtout, c'est un acteur qui n'est pas comme les autres. Lui, il est plutôt dans la lignée des Gabin Belmondo, c'est-à-dire omniprésent sur les écrans, mais discret sur ses revendications. Il dit qu'il n'est pas conscientisé à revendiquer tout le temps des droits. Il ne va pas dans les soirées people, il préfère les dîners entre potes. Et d'ailleurs, c'est une interview assez... Enfin, pas cash, mais où il dit les choses clairement, quoi. Il dit il regrette que le prêt-à-penser s'invite partout et que tout le monde soit dans le commentaire permanent. Donc, pour lui, il y a cette phrase: un juge doit juger, un journaliste doit commenter, un acteur doit jouer. Voilà.
Ouais. Ben non, mais non, c'est vrai, je lisais cette interview qui était intéressante. Et Marina Foïs, alors dans un autre registre aussi, mais qui est dans le Figaro Madame, aussi avec un rôle sur mesure, parce que elle sait. Mais elle s'est provoquée, poser aussi les questions, alors qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec elle, mais c'est la même chose.
Hein. Oui, exactement. Ils sont chacun dans leur registre. Ouais. D'ailleurs, lui ne critique pas tous les autres. Il dit, voilà, moi je suis comme ça, on ne changera pas. Ouais. Et au fond, c'est plus à travers ses rôles qui sont très différents qu'il veut être jugé. Et derrière moi, d'ailleurs, le prochain grand rôle qu'il va avoir, c'est d'incarner Nicolas Sarkozy dans un film d'Anne Fontaine sur Sarkozy et Hollande.
Oui, absolument. Y a beaucoup d'interviews intéressantes aussi. Celle de Rachel Kahn, par exemple, quoi, qui est juriste, scénariste, actrice et écrivain avant d'être femme noire ou juive. Elle dit... Elle s'attaque un peu au discours victimaire, hein.
Oui, exactement, en disant ça aurait été facile pour moi finalement de me victimiser, de dire, de capitaliser sur ma couleur, mon sexe, ma religion, ma situation, et elle n'a pas envie de le faire, elle dit non, on va chercher un petit peu plus loin, et le discours victimaire est insupportable. Et alors on a aussi une interview, ça, par rapport au sujet que vous avez après, qui est très poil à gratter, du docteur Perrault-Mort, le chef de service d'urologie à Cochin, parce que lui, il est totalement anti-confinement en disant, attention, la mort d'un petit nombre de malades est moins dramatique que la misère d'un grand nombre de personnes. Mmh. Et ça, c'est un discours, il est très critique vis-à-vis de tous ces urgentistes et autres médecins qu'on voit beaucoup à la télévision, en disant, c'est des médecins de l'ombre, ils sentent pousser des ailes, mais ils vont trop loin, et croient parler au nom de leurs confrères, ce qui n'est pas le cas, et c'est une interview qui va un petit peu faire de bruit.
Alors, complètement, mais c'est vrai, j'allais y venir, parce qu'il s'étonne de la faible mobilisation à des responsables publics pour écarter, dans un premier temps, d'engorgement les services de réanimation, etc., c'est vrai, et puis il déplore tout autant la fermeture des restos, des musées, des stades.
Voilà. Lui, il dit, au fond, le confinement n'est pas la solution. C'est proposé par des gens qui ne voient pas des patients, qui n'ont pas un rapport direct avec leurs patients et qui voient juste l'engorgement. Mais il dit, ce que va faire le gouvernement maintenant, on peut ouvrir d'autres lits dans les cliniques privées, dans d'autres établissements, faire des transferts. Et il dit, la vie économique est plus importante. Après tout, pour lui, ce qui est important, c'est le modèle suédois. C'est-à-dire qu'on ne confine pas sévèrement, on laisse vivre les gens, mais en faisant respecter, peut-être plus qu'on ne le fait aujourd'hui, tous ces fameux gestes barrières, se laver les mains, garder les distances, porter des masques, et ça freine la diffusion du virus. Lui, il est plutôt à dire que le confinement strict n'est peut-être pas la solution, parce que le virus va muter et ne sera pas éliminé.
Oui. Enfin, il dit, j'ajoute, et pour compléter quand même, que les modèles asiatiques, où eux, ils ont tout fermé pendant un petit bout de temps, rapidement, dès le début, et notamment les frontières, ça, si on trace derrière, ça peut marcher, quoi, c'est efficace. Après, nous, on ne sait pas faire.
Non, voilà, lui, il dit que nous, on a fait toujours un entre-deux. Oui. C'est pas le en même temps d'Emmanuel Macron, parce qu'il le cite pas, il le pointe pas. Mais c'est les pays occidentaux, en fait, on a navigué entre, on confine, mais pas aussi sévèrement, parce que lui, ce qu'il dit, c'est que les pays asiatiques ont fermé les frontières. Et quand les gens arrivaient, ils étaient soumis à des régimes très stricts de confinement. Or là, nous, ça n'a pas été le cas. Et il dit, maintenant, de toute façon, c'est trop tard, on peut plus le faire.
Oui. Interview très intéressante, il y en a plusieurs dans le Figaro Magazine de ce week-end. Merci beaucoup, Karl Meus, rédacteur en chef du Figaro Magazine, d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio.
Et on continue avec le petit déjeuner de l'actu. Éric Revel et Philippe Bilger, surtout.
Oui, Philippe Bilger, bonjour.
Bonjour Philippe.
Bonjour Céphile, bonjour Patrick.
Alors Philippe Bilger, vous voulez nous parler, c'est un sujet qui a traversé toute la semaine, si je puis dire, c'est l'éducation des parents, en raison évidemment de ces différentes histoires de guerre de bande, d'harcèlement, etc.
Absolument, Patrick. J'ai été frappé de la multitude des observations sur ces tragédies. Et bien sûr, on a mis en cause les réseaux sociaux. On a mis en cause le laxisme de la justice, réel ou non. On a mis en cause la faiblesse de l'autorité de l'État. Et une fois qu'on a fait tout ça, on a affirmé qu'en réalité, c'était de la faute des parents qu'ils devraient éduquer. Et au fond... mon point de vue est de dire que c'est trop facile de se reporter sur l'éducation des parents, parce que dans les familles d'aujourd'hui, stables, décomposées ou recomposées, on peut affirmer que beaucoup de parents, beaucoup de structures familiales n'enseignent plus les règles de morale élémentaire et, j'allais dire, d'éthique collective. Et donc... le paradoxe, c'est alors que ça renvoie aux enfants eux-mêmes l'obligation de se tenir correctement. Je suis tout de même effaré lorsque je constate que des jeunes gens de 13, 14, 15 ans qui ne vivent pas dans des conditions indignes ne sont pas capables d'intérioriser des règles élémentaires de morale personnelle. On sait tout de même si on n'a pas des parents qui sont présents en permanence, qu'on ne doit pas tuer, qu'on ne doit pas harceler, qu'on ne doit pas voler. Je me demande si au fond notre société, et je finis Patrick là-dessus, n'oublie pas à chaque fois comme ressort fondamental de ce qu'on dénonce le délitement absolu de l'éthique personnelle.
Oui, écoutez, ça fait réagir. Nous avons Guy qui est avec nous, d'Alès.
Bonjour Guy.
Bonjour Guy.
Bonjour.
Bonjour. Vous vouliez réagir sur ce sujet, notamment la violence chez les jeunes.
Oui, alors, ce qui me fait réagir, c'est de voir qu'aujourd'hui, tout le monde fait le constat, tout le monde est désolé de s'apercevoir que les jeunes sont violents. Sauf qu'on voit venir le phénomène de, depuis très longtemps, depuis plusieurs décennies, ça s'aggrave. Et je trouve quand même qu'il y a des gens qui ont des responsabilités, je pense que les politiques et autres ont quand même la responsabilité de ne pas avoir écouté même le peuple, parce que les gens dans la société le voient. Vous savez, moi, j'entends plein de réflexions. Il n'y a pas très longtemps, une dame disait, un jour, on se fera couper la tête dans la rue. Bon, c'est des choses qu'on entend tous les jours. On voit venir, la société voit venir. Les seuls qui n'ont pas vu venir, c'est ceux qui sont aux commandes. Et ça, c'est assez agaçant, quoi. Voilà.
Oui, non, c'est vrai. C'est un peu, ça rejoint ce que vous disiez, Philippe Bidger, quoi, non ?
Oui, absolument. Sinon, que je ferais, pour contredire très aimablement Guy, je ne dirais pas que c'est la jeunesse. Je dirais qu'il y a certains jeunes gens qui, en effet, sont plongés dans le judiciaire et le transgressif, et il faut constater que les infractions sont de plus en plus violentes et qu'elles sont commises de manière de plus en plus précoce. Il y a un certain nombre de jeunes gens qui créent de terribles problèmes et on peut évidemment se dire que ces jeunes gens, peut-être n'ont-ils pas un foyer avec la chaleur qui convient, voilà. Mais ils retrouvent dans les bangs une sorte de fraternité.
Bah oui, bien sûr, notamment dans ce passage délicat de la vie qui est l'adolescence, tout de même, où on a besoin de repères, où on peut être un petit peu perdu, Philippe. Hein. Guy, bien sûr. Quelque chose à ajouter peut-être, et ensuite Éric Revel.
Ajouter qui est... en fait, c'est que le pire de ces actes sont faits peut-être par une catégorie, mais je veux dire que la société dans son ensemble, les jeunes dans leur ensemble, souffrent des troubles, ils sont mal à l'aise dans la société. Certains se droguent, certains s'isolent, certains passent leur vie sur les médias, mais en fait, au fond, ils ont tous le même problème. C'est-à-dire que oui, certains vont aller jusqu'à la violence extrême, d'autres non, vont avoir une violence sur eux-mêmes peut-être à la rigueur. Mais il y a quand même une souffrance qui est générale aujourd'hui, et ça, moi, je le dis, c'est un effondrement culturel. Et il y a des quantités de choses à dire là. Je n'aurai pas le temps de dire tout ce que je pense à ce sujet. Mais on voit venir la dégradation de la société depuis très longtemps. Et bon, ben aujourd'hui, oui, on s'interroge, mais il faudrait le faire vraiment, savoir pourquoi on en est là, comment c'est arrivé, ça travaille depuis très longtemps. Vous voyez.
Éric Revel, un complément peut-être, Éric, avec nous aussi.
Un complément et une information, si vous le permettez, mon cher Patrick, puisque nous, ici à Nice, on vient de vivre hier soir un nouveau drame, puisque dans une rue centrale de Nice, un jeune a été poignardé apparemment, un règlement de compte entre bandes, à propos de stupéfiants sans doute, et on dit ce matin que ce jeune de 16 ans serait entre la vie et la mort.
Ah oui.
Donc ça, voilà une nouvelle illustration dramatique de cette violence. Je partage le point de Philippe Bilger tout à l'heure sur... Ça fait un peu musée de le dire, mais oui, l'effondrement des valeurs morales ou culturelles, ou les deux, dans notre pays. Les repères, on en a tous eu, qu'on soit fils ou fille de bourgeois ou fils ou fille d'ouvrier. Pourquoi on les avait ? Mais parce qu'on regardait une société qui était encore structurée à l'époque, et aujourd'hui, je pense que ce manque de repères, culturels, moraux, ce manque de garde-fous d'une société qui s'est liquéfiée quand même sur ses bases, le résultat, on le constate dans la rue. Parce que, pardon, que l'adolescence soit un moment difficile dans la vie, peut-être, oui, certes.
Non, mais c'est pour ça qu'il faut intervenir. C'est pour ça qu'il faut intervenir à ce moment-là.
Depuis que le monde est monde, il y a des adolescents.
Bien sûr, bien sûr.
C'est pas pour autant que on a connu tout le temps et à n'importe quel moment cette violence qui semble jamais s'arrêter.
Non mais elle a existé. Par exemple, non mais c'est vrai. Mais par exemple, mais il n'y avait pas aussi les mêmes moyens. Il n'y avait peut-être pas une débridation, si je puis dire, des esprits à ce niveau-là. Mais dans les années 50, 60, au lendemain de la guerre, on va pas remonter en fait plus tôt. Il y avait c'était beaucoup dans les campagnes, mais même dans les villes, il y avait des affrontements entre bandes, rivales. d'ado. Mais alors, il y avait des bagarres. C'était, oui, oui, non, mais c'est vrai. Bah, attendez, c'était entre, grosso modo, c'était entre ceux qui étaient dans les écoles catho et ceux qui étaient dans les écoles publiques. Hein. C'était beaucoup comme ça. On se retrouvait sur la place, derrière l'église ou ailleurs, et on se bastonnait. Je l'ai pas connu, mais on me l'a raconté. Et après, ça s'est progressivement, ça s'est structuré dans les années 70, 80, 90. Et là, aujourd'hui, bah, il y a d'autres repères qui manquent dans notre société.
Sauf qu'il n'y avait pas d'armes blanches ni de
oui, et puis aujourd'hui,
d'armes à feu.
Et puis il y a eu la drogue qui est arrivée. Il y avait des armes blanches. Il y avait des armes blanches.
Il y avait des coups de couteau. C'est le niveau de violence qui s'affrontent pour une fille avec un couteau.
Comment, Guy ?
C'est jamais que ça.
Le niveau de violence n'avait rien à voir avec ce qu'il y a aujourd'hui. Les gens, même s'il y avait des...
Ça existait, ça. Ça existait, Guy.
Mais pas aussi violent quand même, on n'a pas vu ça. Moi, écoutez, je suis né en Bien France, sûr. J'ai passé mon enfance, j'ai plus de souvenirs de camaraderie et des bagarres, j'en ai pas vu. Dans les lycées que j'ai fréquentés ou les collèges et tout, il n'y avait pas de bagarres. Ou alors, c'était pas la France, ce que j'habitais, mais c'est possible. Hein. Là où j'ai habité, moi, je n'ai pas eu affaire à ce genre de problème. Et quand ils avaient lieu, c'était des bagarrettes, quoi.
C'était
très loin. C'était vraiment minoritaire.
Non,
il ne faut pas prendre ça comme ça à la légère. Je crois que c'est un...
Ah bon, on ne le prend pas à la légère.
De société.
La
sous-culture, la sous-culture, ça je tiens à le dire, elle touche tout le monde, elle touche les élites aussi.
Complètement.
Aujourd'hui, même les grands esprits et tout ça sont atteints de sous-culture, parce que la sous-culture, c'est tout le monde. C'est un terreau. C'est ça la France ou un pays. Ouais. C'est un ensemble avec les élites et le peuple. Et donc, s'il n'y a plus de lien entre tous ces gens, ce qui était symbolisé autrefois par les fêtes, par des choses comme ça, on peut dire qu'aujourd'hui, même les élites, même les gens importants, sont en état de sous-culture. Alors qu'ils prennent des décisions.
Merci Guy, Éric Revel, Philippe Bilger également d'avoir été avec nous. On va se retrouver juste après les infos de 9h. Cécile, avec beaucoup d'autres sujets.
On va parler des infirmiers qui demandent à vacciner leurs patients à domicile. Et puis on parlera rugby pour les tournois destination.
Oui, Angleterre-France, ce week-end, François Triot sera avec nous. Et puis ensuite, que le meilleur gagne. C'est André Comte-Sponville qui écrit sur le sport. Est-ce que le sport reflète aussi, les valeurs du sport reflètent notre société, en quelque sorte. Intéressant. Et il sera avec nous tout à l'heure.
Vous voulez discuter avec nous, 0826-300-300. À tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
9h08, dans quelques instants, on vous parlera rugby avec François Triot, hein, puisque c'est le tournoi des Six Nations ce week-end. Et puis André Comte-Sponville sera avec nous, que le meilleur gagne. Ce livre sur le sport et sur la compétition à tout prix, qui crée forcément des inégalités. Vous voulez nous en parler, 0826-300-300. Et on passe à l'Ordre National des Infirmiers qui appelle à ce que les infirmiers puissent vacciner leurs patients à domicile. Et pour en parler, et Patrick Chambord-Redon est avec nous. Président du Conseil national de l'Ordre des infirmiers, bonjour.
Bonjour Cécile, bonjour Patrick.
Oui, alors Patrick Chambord-Redon, il y a eu en fait un petit souci, c'est-à-dire dans la distribution et la répartition, et notamment pour les infirmiers libéraux. On en est où justement pour pouvoir vacciner les patients à domicile ?
Alors on a eu un décret de la HAS qui est sorti la semaine dernière, la Haute Autorité de Santé, qui a confié la vaccination à d'autres que les infirmiers et que les médecins, les sages-femmes et les pharmaciens. Et donc, de notre côté, on trouve que c'est une mesure qui est pas complémentaire et qui rentre pas en droit ligne de la stratégie d'une vaccination maximale pour l'ensemble de la France.
Donc vous demandez quoi alors maintenant ?
Ben nous, là maintenant, clairement, on dit qu'il faut que les infirmiers soient beaucoup plus impliqués dans la vaccination. Beaucoup plus pour plusieurs raisons. D'abord parce que on sait très bien qu'il y a des déserts médicaux. On sait très bien qu'il y a des exclus du numérique. On sait très bien qu'il y a des gens qui vivent dans la ruralité, qui peuvent pas se déplacer. Et donc, il faut que le vaccin aille vers ces gens-là. Il faut pas qu'on fasse les vaccinodromes, c'est très bien, mais il y a des gens qui ne iront jamais dans les vaccinodromes. Donc, il faut que les infirmiers qui soient les professionnels de santé de proximité puissent aller au plus près de ces populations, puisse leur proposer le vaccin, puisse le prescrire et être effecteur du vaccin.
Mais ça, c'est un problème de répartition des doses, c'est-à-dire qu'on ne vous en donne pas pour pouvoir le faire, en tout cas pas assez, et à partir de la semaine prochaine, déjà il y avait les médecins qui contestaient le fait que les pharmaciens puissent le faire à partir de la semaine prochaine, et le fait qu'ils se retrouvent avec moins de doses, quoi.
Alors, il y a plusieurs problèmes dans ce que vous dites, Patrick, c'est que d'abord, les infirmiers n'ont pas de dotation spécifique qui est prévue pour pouvoir aller vacciner au domicile. Il y a un deuxième problème qui est réglementaire, c'est que les infirmiers n'ont pas la compétence de prescrire et de vacciner en solo. Il faut qu'il y ait une prescription médicale. Donc, on a ces deux problèmes réglementaires qu'il faut régler par un texte qui va être pris très certainement assez rapidement, puisque j'ai interrogé directement la présidente de la HAS devant cet état de fait où on a exclu, puisqu'on est complémentaires. Moi, je ne vais pas monter les médecins contre les pharmaciens, contre les sages-femmes, contre les infirmiers. Oui. C'est pas tout le sujet. Il faut que tout le monde y aille parce qu'on veut tous retrouver une vie normale. Et cette vie normale passe par une vaccination massive de la population.
Oui. À propos de vaccination massive, alors tout le monde n'est pas favorable à ça. On a entendu, on avait un médecin tout à l'heure, virologue, qui était avec nous à 8h10. Lui, il était assez circonspect par rapport à ça, et notamment par rapport à l'efficacité de certains vaccins. Je sais aussi que chez les personnels soignants, il y a eu des réticences. On en est où aujourd'hui?
Alors, moi, de chiffres exacts et qui font un point scientifique de cette réalité, qui n'en est pas une pour moi à ce jour, je ne pourrais pas dire. Mais en tout cas, ce que je pense, et on a vu pour la grippe, nous, on a fait des enquêtes, pour la grippe, les infirmiers étaient peu impliqués. Depuis qu'on les a plus impliqués, le seuil de vaccination chez les infirmiers a augmenté chaque année de plus de 20%. Donc, on voit bien que plus on va impliquer les professionnels dans une stratégie, meilleure sera l'acceptabilité et en plus, derrière cette question que vous posez, Patrick, qui est super intéressante, il y a la question en France de l'hésitation vaccinale. Plus on aura de professionnels de santé qui seront vaccinés, qui eux-mêmes croiront à la vaccination, plus on aura d'ambassadeurs pour la vaccination, de gens capables d'aller justement convaincre des patients qu'il faut être vacciné, que c'est important. Parce que, quel que soit, j'ai pas entendu l'interview du virologue, excusez-moi, mais quel que soit l'efficacité du vaccin, je vais rappeler, le vaccin pour la grippe, c'est 50% à tout casser. Là, on est sur des seuils qui sont annoncés au-delà de 70 à 80%. Ça va permettre aussi d'éviter qu'il y ait des variants qui apparaissent. Donc, clairement, des stratégies globales, et c'est ce qu'il faut promouvoir auprès de la population et auprès des professionnels.
Bon, bah, très bien. Merci. Le message est passé, Patrick Chamboredon, en tout cas sur vous, hein, sur votre appel des infirmiers libéraux, parce que c'est vrai que vous êtes en première ligne, et on a du mal quand même à comprendre que vous ne puissiez pas intervenir auprès de vos patients, avec qui il y a un lien de confiance. Ça, c'est particulièrement important. Hein. Merci à vous d'avoir été avec nous en direct ce matin. On arrive au Covid, toujours, parce que autour du rugby, évidemment, on va présenter une équipe de France un peu amoindrie demain face à l'Angleterre. François Triot est avec nous. François, bonjour.
Bonjour François.
Bonjour Patrick, bonjour Cécile.
Bah oui, cette équipe. Alors que l'équipe de France est plutôt pas mal en ce moment, là, il y a eu la bulle sanitaire, on s'en souvient, qui a éclaté il y a une quinzaine de jours. Fabien Galthié qui s'est expliqué. Et bon, bah, malgré tout, on va voir quand même ce match demain après-midi. On part vraiment amoindri ou pas, Françoise?
Je pense pas qu'on part amoindri. Alors, il y a des joueurs qui sont blessés. Je pense notamment à Bernard Leroux, deuxième ligne du Racing, qui lui est blessé musculairement. Il sera absent pour ce match, mais il reviendra pour le match suivant. Là, ça n'a rien à voir avec le Covid. Sur les 12 joueurs qui avaient été contrôlés positifs sur le Covid, il y en a 7 qui seront titulaires samedi à partir de 17h45 en direct sur Sud Radio, attention, à Twickenham, voilà, et dont Antoine Dupont, dont Charles Olivon, le capitaine, dont la première ligne, hein, Baye, Marchand et Awas. Donc, vous voyez, on peut pas dire que cet épisode-là qui a été monté un peu quand même un peu en épingle.
Ah, ça a été monté en épingle, vous croyez-vous, François, ben, non?
Alors moi, si vous voulez vraiment mon avis, parce que je sens que vous voulez mon avis.
Voilà.
Vous êtes un spécialiste.
Je pense qu'il y avait un protocole. Voilà, les joueurs avaient le droit de sortir, ils sont sortis, ou les joueurs ou l'entraîneur, enfin peu importe. Ce que je veux dire, c'est que après, je suis pas un spécialiste de tout ça. C'est pas ce qui m'intéresse le plus quand je parle de rugby. Mais après, oui, je trouve qu'il y a eu effectivement une petite chantilly médiatique.
Oui, c'est vrai. Bon, ben parce qu'il y a eu une chantilly. Ben, vous avez vu quand on appuie pour la chantilly, boum, ça monte évidemment tout de suite. Hein, donc c'est la bonne expression. Cela dit, quand même, il y a eu beaucoup de craintes, quoi, pour que toute l'équipe ne soit à un moment donné touchée, quoi, et sur le flanc.
Ça, c'est clair. faire. Et on va dire que ça, c'est quelque chose qui nous affecte dans la vie de tous les jours. Hein. Je veux dire, quand quelqu'un est infecté par ce virus, ben, soit ça peut prendre le bon chemin, vous restez asymptomatique et tout va bien, soit ça prend le mauvais chemin, et là, en 2-3 jours, votre vie peut basculer. Mmh. Donc, les joueurs de rugby, même s'ils sont, on va dire, surentraînés et donc potentiellement surprotégés, bon, on l'a vu, hein, ils peuvent attraper le virus, déjà, ça les rend humains, et puis il y en a certains, parce que je pense notamment aux jeunes... Arthur Vincent, là, qui, lui, n'a pas été rappelé dans le 31, parce que je pense que, d'après ce que j'ai lu entre les lignes, il n'était pas complètement revenu à 100%. Ouais, mais voilà, ça peut affecter la santé. C'est ça le plus ennuyeux dans cette histoire. Hein.
Bon, le petit Dupont est là, quand même. Donc, ça nous rassure un peu, non hein Non, mais c'est vrai. Bon. C'est le moteur de cette équipe, quoi qu'on en dise. Quoi. Quand il n'est pas là, je ne veux pas, évidemment, minimiser le rôle des autres, mais on a l'impression que c'est la dynamite, quoi.
Oui, même si son remplaçant, Baptiste Serin, fait toujours des entrées qui sont très intéressantes pour l'équipe. C'est vrai qu'Antoine Dupont, il a un truc en plus. Voilà, ça fait partie de ces joueurs qui pourraient être dans l'équipe de Nouvelle-Zélande, par exemple.
C'est vrai.
Et puis les garçons, 3 rencontres, 2 victoires pour la France.
Ouais. Oui. Parce que quand même, toute la période là, dont je parle de chantilly médiatique, le point le plus important, c'est que le France-Écosse n'a pas été annulé, il a été reporté. Donc ça veut dire que potentiellement, la France, si elle bat les Anglais samedi, ce qui va être très très dur, hein, parce que d'abord c'est pas arrivé depuis 2005, et puis en plus les Anglais restent quand même sur 2 défaites, enfin pas consécutives, mais en tout cas 2 défaites en 3 matchs, ça veut dire que ces Anglais-là, ils vont être revanchards. Eddie Jones, l'entraîneur un peu arrogant du 15 de la Rose, il a un peu la pression de la part des tabloïds, donc je pense que la pression va monter de leur niveau, et si jamais les Français parvenaient à battre les Anglais samedi, ça serait un grand pas vers le grand chelem, mais surtout ça serait, je pense, une étape importante dans la construction de cette équipe.
Mais ça va le faire, avec vous à la manette, à la baguette, si je puis dire. François, avec Daniel Herrero, c'est à suivre en direct. Vous pouvez regarder la télé, vous coupez le son, vous mettez la radio, évidemment, c'est à partir de 17h45, hein. C'est ça.
Nous, on sera là à partir de 15h parce qu'il y a un match intéressant de top 14 aussi, Bayonne-Agen. Capitale pour le maintien des Bayonnais en top 14.
Oui, bien sûr.
Tiens, il y a de l'ambiance samedi.
Oui, ça me fait penser que du côté des Pyrénées-Atlantiques, hein, quand on descend, c'est le département où il y a le moins de personnes contaminées au Covid.
C'est
vous avez
bien
vu.
De le dire. Eh ben, oui. On va rester dans le sport. Merci beaucoup.
Merci François.
Trio.
Bon match, on y croit.
Et à samedi sur Sud Radio. On va rester dans le sport avec ce livre, hein, Que le meilleur gagne. C'est André Comte-Sponville qui nous en parlera dans quelques instants. On parlera des valeurs du sport, des vertus du sport et puis des inconvénients aussi. Vous voulez nous en parler, 0826 300 300, on revient tout de suite.